vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant le jeu Broomstick League. On aura ensuite une petite news technologie avec la réalité virtuelle qui ouvre un monde fabuleux de possibilités pour les personnes sourdes et muettes. Et on finira avec les sorties de la semaine. On commence donc avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ou Mario and Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games. Voilà, c'est un jeu vidéo de sport officiel des Jeux Olympiques d'été 2020 et de party game qui est jouable de 1 à 4 joueurs. Il a été développé par Sega Sports R&D, édité par Nintendo et distribué par Sega pour les arcades. Il s'agit du 6e opus de la série Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Il est sorti le 1er novembre 2019 au Japon, le 5 novembre en Amérique du Nord et le 8 novembre en Europe sur Nintendo Switch, et donc sur arcade. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est un jeu de multi-épreuves où les deux célèbres mascottes de Sega et Nintendo s'affrontent dans les épreuves officielles des Jeux Olympiques. Natation, athlétisme, jeu de balle, un nombre impressionnant de disciplines olympiques officielles sont reproduites. Le jeu est classé PEGI 3 et il obtient une note de 12 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 4 sur 10 de la part de Gamekult. Depuis 2007, les deux frères ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis d'aujourd'hui. Ayant effacé leurs différends grâce au sport, Mario et Sonic coulent des jours paisibles et reviennent régulièrement sur nos consoles en profitant des Jeux Olympiques d'été comme d'hiver. Prenant un brin d'avance sur la compétition officielle qui ne débutera que le 24 juillet prochain, Mario, Sonic et toute la clique débarquent sur Switch en cette fin d'année 2019 afin de permettre aux sportifs pantouflards qui sommeillent en nous de s'affronter bien au chaud. Délaissant la portable de Nintendo qui avait pourtant vu naître cette série, la saga offre à la dernière année de Nintendo un jeu multi-épreuve dans la veine de ses prédécesseurs. Que celles et ceux qui cherchent de l'originalité passent donc leur chemin en laissant la porte ouverte aux compétiteurs qui profiteront cette fois de 21 épreuves, de 3 variantes en mode rêve, mais aussi d'une dizaine de disciplines dans un délicieux style rétro. Donc malgré le fait qu'ils soient aujourd'hui seuls sur le marché du multi-épreuve, Mario et Sonic essaient malgré tout de proposer quelques petites nouveautés à chaque épisode, tout en restant, il faut bien l'avouer, dans sa zone de confort depuis un peu plus de 12 ans. Bien que cela passe généralement par un nombre plus élevé d'épreuves, ces dernières ont également le mérite d'être un peu plus variées, les développeurs en délaissant certaines au profit d'autres. Ainsi cette année, bien qu'on constate que Sega ait réintégré les épreuves rêves, leur faible nombre ne fait que mettre en avant celle rétro, une idée sympathique sur le papier, qui se révèle cependant moins efficace que prévu. La faute en incombe en premier lieu au choix d'édites épreuves, puisque si on compare ces dernières à celles de base, 5 d'entre elles sont plus ou moins identiques. Deuxièmement, on constate que le gameplay s'avère simpliste et que les disciplines n'apportent pas de vrais challenges, alors qu'on aurait au contraire apprécié qu'elles renvoient aux jeux d'époque. Paradoxalement, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 tirent un trait sur cette époque, et ce malgré la volonté de revenir dans le passé via un mode histoire. Donc comme toujours, le maître mot se veut ici synonyme d'accessibilité en proposant à chaque fois 3 configurations différentes, avec un Joy-Con, 2 Joy-Con ou tout simplement les boutons. Oubliez cependant les techniques du briquet ou du mouchoir, elles ne vous seront ici d'aucune utilité, sachant qu'il conviendra tout le temps d'appuyer sur un unique bouton pour prendre de la vitesse. Il n'en restera pas moins que la compétition fera rage, surtout si vous avez des amis sous la main pour jouer à 4 en local ou en online, en partie libre ou en classé. A contrario, on se rend vite compte qu'en solo, le tout manque de challenge et que décrocher l'or deviendra une formalité en normal ou en difficile. Donc si vous voulez un peu de difficulté contre l'intelligence artificielle, optez dès le départ pour le mode très difficile. Au-delà de cet état de fait, on regrette un peu, comme c'est souvent le cas, que plusieurs épreuves donnent l'impression d'être davantage là pour gonfler le nombre global, au détriment de leur profondeur, autant dans la jouabilité que dans le fun qu'elles procurent. Alors oui, on passe de 17 épreuves pour Rio à 34 pour Tokyo, mais est-ce suffisant? Vu sous cet angle, le joueur semble gagnant, sauf qu'à y regarder de plus près, c'est un peu plus compliqué. Déjà, celles et ceux qui appréciaient les épreuves rêves seront déçus de n'en retrouver que 3, d'autant que le caractère s'avère terriblement brouillon. Reste la course rêve plutôt bien fichue et le tir rêve, sorte de shooter un peu mollasson nous permettant d'évoluer dans un temple japonais en nous demandant d'atteindre le plus de cibles dans le temps imparti afin de se hisser sur le podium. Pour pallier l'absence de plus de variantes rêves, les disciplines rétro débarquent dans ce volet, Excellente idée, sauf que tout comme leurs homologues actuels, beaucoup d'entre elles sont simplistes ou peu intéressantes, comme le judo, le tir, le kayak ou bien encore le volleyball. Notons cependant que le marathon, aussi simple soit-il, s'avère intéressant dans la gestion de notre fatigue. Cependant, on lui reprochera à l'inverse des autres épreuves, une difficulté mal dosée avec une endurance ayant tendance à baisser très rapidement, ceci rendant la victoire quasiment impossible tant les premiers participants sont difficiles à rattraper. Pour ce qui est des autres épreuves, si certaines sont toujours aussi efficaces car mimant réellement les gestes du sportif à l'image du tir à l'arc, on sera très déçu par les quatre petites nouvelles, autrement dit le surf, le skate, l'escalade et le karaté kumite, manquant singulièrement de fun. Même constat pour le tennis de table ou le badminton, manquant de finesse dans leur approche, se résumant la plupart du temps à balancer des patates de forain pour déborder l'adversaire et à attendre le super coup pour le clouer sur place. A l'inverse, on saluera le football ou le retour du rugby à 7, plutôt agréable à prendre en main. En somme, on aurait préféré que le jeu délaisse par moments l'éclectisme au profit par exemple d'un peu plus d'épreuves d'athlétisme, en y intégrant notamment le saut en hauteur ou à la perche. Donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 proposent une variété assez disparate d'épreuves. Pour les épreuves d'athlétisme, on a le 100 mètres, le 100 mètres et le relais 4x100 mètres, le lancer de javelot, le lancer de disque et le triple saut. Pour les épreuves en équipe, on a le football et le rugby à 7. Pour les autres épreuves, parce que ça regroupe un petit peu tout, on a donc l'escalade, le surf, le skateboard, le karaté, la boxe, le canoë, la natation, la gymnastique, les sports équestres, le badminton, le tennis de table, l'escrime et le tir à l'arc. Pour les épreuves rétro d'athlétisme, on a le 100 mètres, le 400 mètres et le saut en longueur et le marathon. Et pour les autres épreuves rétro, on a le haut vol 10 mètres, le saut de cheval, le kayak, le judo, le volleyball et le tir. Avec autant d'épreuves, il fallait donc un mode histoire à la hauteur. Malheureusement, on est loin du compte, ce qui est d'autant plus dommageable que la mort s'est bien trouvée. Mario et Sonic, après s'être fait aspirer par un jeu vidéo rétro, retournent en 1964 lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour revenir à leur époque, ils devront gagner des médailles d'or en contrant les plans machiavéliques de Bowser et Eggman. Donc oui, l'histoire n'est qu'un prétexte à intégrer les épreuves rétro, mais cela aurait pu fonctionner, d'autant qu'en parallèle de la timeline de 1964, on retournera au gré des chapitres en 2020, où Luigi et sa petite bande tentent eux aussi de ramener leurs amis en gagnant des médailles. Au-delà de l'histoire naïve et un brin tiré par les cheveux, ce sont surtout les énormes longueurs qui la composent qui finiront par avoir raison de votre patience. Entre les dialogues inutiles, des animations de personnages rallongeant les scénettes et des va-et-vient entre les différents lieux du site, les épreuves paraissent beaucoup trop diluées dans un récit qui, avouons-le, n'intéressera pas grand monde. On subira donc ce mode plus qu'on en profitera, même si c'est par ce biais qu'on glanera quantité d'anecdotes sur les Jeux Olympiques et les personnages jouables. Toujours bon à prendre, tout comme la dizaine de mini-jeux à débloquer, mais même si on n'a rien de bien passionnant, cela apportera quand même un peu plus de variété, bien que certains soient basés sur les épreuves déjà existantes. Vous aurez sans doute compris que ce Mario et Sonic aux Jeux Olympiques donnent l'impression d'avoir privilégié la quantité à la qualité, en optant le plus souvent pour la solution de facilité. Dans sa globalité, il reste plutôt avenant d'un point de vue visuel, et sur l'ensemble des épreuves, vous devriez en trouver plusieurs qui vous correspondent. Malheureusement, si le jeu pourra satisfaire lors de petites sessions entre amis, il montrera vite ses limites dès lors qu'on s'y plonge plusieurs heures durant. Donc trop d'épreuves manquant de profondeur, un gameplay n'offrant pas assez de challenge et risquant de ne pas convenir aux compétiteurs, un mode histoire beaucoup trop bavard, une absence globale de fun. À vous de voir néanmoins comment vous comptez le consommer, mais retenez qu'en fonction de votre approche du genre, le titre pourra vous satisfaire le temps de quelques petites parties, ou au contraire grandement vous décevoir, surtout si c'est l'aspect compétitif qui vous attire le plus. Donc pour les points positifs, on a un bon nombre d'épreuves, les épreuves rétro, certains mini-jeux qui sont sympathiques, un jeu plutôt joli, le gameplay qui est accessible, et la myriade d'anecdotes sur les Jeux Olympiques et les personnages jouables. Pour les points négatifs, on a beaucoup de disciplines, dont les 4 nouvelles qui sont peu intéressantes. On aurait aimé sur certaines épreuves, les rétro notamment, un gameplay à l'ancienne, le mode histoire qui traîne beaucoup trop en longueur, l'obligation de jouer en très difficile pour avoir un minimum de challenge, et un manque de fun global, surtout en solo. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite le thème principal du jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et on revient juste après. c'était le thème principal du jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On parlera aussi du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 sur Nintendo Switch, un jeu de Sega. En 4ème place, The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place, Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et enfin en 1ère place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, encore un jeu de Nintendo. Pour le top 3 de la PS4, on a en 3ème place Dragon Ball Z Kakarot. En 2ème place, c'est Call of Duty Modern Warfare. Et en 1ère place, FIFA 20. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Dragon Ball Z Kakarot. En 2ème place, Forza Horizon 4. Et en 1ère place, Call of Duty Modern Warfare. Pour le top 3 PC, on a en 3ème place Football Manager 2020, en 2ème place c'est Red Dead Redemption 2, et en 1ère place les Sims 4, l'édition standard. Le dernier top, c'est le top 3 Nintendo 3DS, avec en 3ème place Super Mario 3D Land Select, en 2ème place Pokémon Ultra Soleil, et en 1ère place c'est Animal Crossing New Leaf Welcome Abibo Select. On passe maintenant à la news jeux vidéo, jeu de sport online conjuguant l'univers d'Harry Potter aux mécaniques de Rocket League. Broomstick League est disponible en accès anticipé sur PC. Donc sa sortie complète s'accompagnera également d'un portage sur PlayStation 4 et Xbox One. À bord d'un manche à balai et muni d'une baguette magique, le joueur doit maîtriser son vol, esquiver les ennemis grâce à la magie et défendre ses buts. En équipe de 2, 3 ou 4 joueurs, il faudra alors marquer des points en lançant la balle dans le cerceau adverse. Donc votre sorcier est personnalisable et vous pouvez l'équiper d'une variété de balais, baguettes et autres cosmétiques magiques déverrouillables. Sur Steam, il est indiqué que l'Early Access de Broomstick League devrait durer 12 mois. Donc, suivant cette indication, la version complète du jeu PC et ses portages sur console sont susceptibles de paraître entre décembre 2020 et le début de l'année suivante. Broomstick League est édité par Blue Isle Publishing et développé par Virtual Basement, Code Airquarter et Blue Eye Studio. Il est actuellement disponible sur Steam en accès anticipé et profite d'une réduction de moins 10%, si ça vous intéresse. Il est donc accessible au prix de 11,24€. Voilà. On passe maintenant à la news technologie. Le développement des nouvelles technologies est parfois une véritable lueur d'espoir. Dans une vidéo, le youtubeur Ikena dévoile comment, grâce à la réalité virtuelle, les personnes sourdes ont pu créer une véritable communauté et communiquer en ligne grâce au langage des signes qui s'est adapté à ce nouveau mode de communication. Donc jusqu'à présent, lorsque les personnes atteintes de surdité ou de mutisme voulaient communiquer avec d'autres joueurs sur les jeux en ligne, elles étaient obligées de passer par le chat, c'est-à-dire de discuter par écrit, et ce, quand la plupart des joueurs communiquent vocalement à l'aide de leur micro. Néanmoins, sur une plateforme appelée VRChat, une véritable communauté a pu se créer. Les joueurs prennent leur contrôleur de mouvement, mettent un casque de réalité virtuelle et entrent dans un monde en 3D où il est possible de se parler et de se déplacer dans un environnement interactif en 3 dimensions. Les joueurs apparaissent avec un avatar qui peut être par exemple un personnage d'anime. Cependant, de nombreux joueurs sourds sont incapables de parler, c'est pourquoi ils utilisent leur contrôleur de mouvement afin de simuler une grande partie de la langue des signes américaine, ce qui leur donne donc une voix. Le youtubeur Sirmor avait déjà publié une vidéo afin de faire découvrir cette communauté. C'est aujourd'hui au tour d'Ikena, un Américain passionné de langue, de nous en dévoiler le fonctionnement. Donc la langue des signes nécessite des mouvements très précis qui sollicitent tous les doigts de la main. Le problème est que tous les contrôleurs ne sont pas capables de les reproduire. C'est pourquoi ceux qui parlent la langue des signes doivent adapter certains mots. Donc par exemple, le signe du monde nécessite normalement de faire un signe W sur chaque main et de les faire tourner en cercle. Ce n'est tout simplement pas possible avec tous les systèmes de VR, c'est pourquoi tous les joueurs ont inventé un nouveau signe à utiliser dans l'espace VR pour ce mot. De plus, ces joueurs sourds de VR chat se créent de nouveaux surnoms les uns pour les autres, car rappeler les lettres individuelles de leurs noms respectifs peut souvent être très long, voire impossible. C'est ce qu'explique la jeune femme dans une vidéo. Donc elle va par exemple interpeller quelqu'un par une des caractéristiques... Ah, je vais recommencer. Elle va par exemple interpeller quelqu'un par une des caractéristiques physiques de son avatar. Il est également fascinant de noter que même en langue des signes, il y a différents dialectes dans le monde. Ainsi, les deux interlocuteurs du YouTuber ne sont pas toujours d'accord quant à la manière de signer un mot. Des espaces sont dédiés aux néophytes afin de les introduire de façon ludique à l'apprentissage de la langue, avec des vidéos par exemple. Si la réalité virtuelle n'est évidemment pas la meilleure manière pour réellement apprendre la langue des signes, elle apparaît en revanche comme un excellent moyen pour initier et faire découvrir cette langue si complexe et si riche. Il existe même des zones pour permettre aux personnes sourdes et muettes de communiquer avec des personnes ignorant tout de la langue des signes, comme quoi la technologie ne cesse de créer des ponts entre les personnes, à l'image de ces gants qui oralisent la langue des signes. Voilà. On va donc finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On a eu 3 sorties aujourd'hui vendredi 6 mars avec Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX qui est sorti sur Switch, Yes Your Grace qui est sorti sur PC et Auto Chess Heroes of Paragon qui est sorti sur PC et Nintendo Switch. Pour lundi 9 mars, on aura la sortie de Destiny 2, la saison des dignes sur PC, PS4 et Xbox One. Pour mercredi 11 mars, ça sera la sortie de Ori and the Will of the Wisps, qui sortira sur PC et Xbox One. Et enfin, les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 12 mars avec Bless Unleashed sur Xbox One, The Black Masses sur PC, Half-Past Fate sur PC et Nintendo Switch, DJ Max Respect 5 sur PC et enfin Neon City Riders qui sortira sur PC, PS4 et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble, que vous retrouverez peut-être lundi prochain, sinon ça sera lundi de la semaine d'après. Donc ça sera de 21h à 22h dans tous les cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.